s'il y a une chose qui est quand même assez claire dans Hanté, c'est que les apparitions, elles n'ont rien de grumeuse hein, et qu'elles vont quand même mettre des sacrés coups à nos jeunes héros. Non. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces fantômes, de qui ils sont en fait?
Alors, dans Hanté et la suite Pigé, effectivement, ce sont des fantômes qui peuvent interagir physiquement une fois qu'ils ont compris qu'on pouvait le faire. Ce sont des résonances de gens qui ont vécu. Et comme c'est souvent le cas pour les fantômes tels qu'on les
de l'aventure, c'est le symbole du merveilleux, du fantastique. Et il monte, enfin, il a un navire qui est la figure de proue. Il a Lola, il est amoureux de cette figure de proue qui, de temps en temps, se détache du navire et trace des cœurs d'écume autour du bateau. Très romantique, très romanesque et tout. Et il va sauver une jeune fille qui est la fille, en fait, du capitaine du vaisseau fantôme. Je joue à être fasciné par le vaisseau fantôme. J'ai un moitié ardennais, moi qui ressemble beaucoup au Morvan d'ailleurs, et aussi une moitié bretonne du côté de Damgant. Et c'est vrai que les fantômes, j'ai baigné un petit peu là-dedans. Ça, c'est marrant parce que j'ai baigné dans deux univers, un forestier où il y avait déjà des histoires de fantômes, et celui aussi de la maritime, où alors là, effectivement, il y a toujours la présence de la mort, des amarrons, des noyés qui reviennent. C'est le sable de la baie des Trépassés, c'est la poudre d'os de tous ceux qui sont morts en mer, bah, et que la mer a rejeté leurs os blanchis. Mais j'ai jamais vu le fantôme non plus comme quelque chose, comme une femme. Bachelard dit qu'un fantôme, c'est une fée inachevée. Je trouve ça très joli. Et c'est vrai, il y a de ça. Le fantôme peut s'habiller, je parle pas du revenant, mais le fantôme est un esprit, une musique, une présence, ou un esprit de la nature. Le palais du Morvan, c'est vrai qu'il flotte là. Ça appelle aussi l'image. Hein, pendant les fantômes, là, tu vois New York, la mémoire qui se met plus dans un gothique, tu vois, de Bram Stoker, cette vieille Angleterre, où j'ai besoin du paysage, j'ai besoin d'images, et des images, toi, qui s'imposent à toi, d'un New York bruyant, avec Nicolas Rétractin, ou je ne sais pas quoi, tu vois, moi, justement, c'est plus fluide, plus évanescent, et donc, comme mon dessinateur, qui est un copain qui est un ardennais, lui aussi a baigné dans cette Ardenne fulgineuse avec l'eau, les dames de Meuse. Et je vais raconter cette histoire du capitaine Trèfle. Sa femme s'est embarrée. Ils étaient venus habiter à la maison. Il m'a joué de la cornemuse tout le temps. Et pour ma Noël, il m'avait fabriqué le capitaine Trèfle dont je lui parlais. Ce qui lui permettait de dire qu'est-ce qu'il avait bien à Noël important. Donc, on a eu envie de faire vivre ce pantin, ce capitaine Trèfle, et un éditeur est venu à la maison. Je lui ai raconté ce qu'il a voulu voir. Qu'est-ce que c'est que ce pantin? Je lui ai raconté, et il m'a dit: mais c'est bien, il faut l'écrire. Je l'ai écrit d'une traite, ça, peut-être en une semaine, là, et ça venait tout seul, enfin, il était pas bien épais. Et donc, on a fait un petit volume, un petit bouquin. Et Haussmann a toujours voulu lui le reprendre en bande dessinée, parce qu'il n'avait pas pu dessiner justement, parce que c'est un petit bouquin d'illustration, mais il y avait des petites illustrations et des éparpillées. Il voulait absolument faire une bande dessinée. C'est assez terrible, parce que là encore, il y a un petit peu quelque chose de fantomatique dedans. C'est que le héros qui m'avait dessiné à l'époque, c'était une espèce de jeune Munchausen, tant Oscaramouche Munchausen, très joyeux, très qu'ici il y avait une tempête, des smacks, la tempête, j'avais dansé dessus, musique, violon, et il dansait au son de la tempête, tu vois, le rigodon, je ne sais pas. Et là, il a fait cette bande dessinée dans son coin, et je l'ai découverte, terminée. Et c'est terrible parce que le héros, il ressemble à Max von Sydow, hein, qui on vient d'annoncer qu'il est un cancer en phase terminale. Il a une tronche de gosse, il ressemble vraiment là à un fantôme. Il ressemble plus au capitaine du vaisseau fantôme. Et c'était, pour moi, c'est terrible parce que j'ai vu défiler brusquement les années et un héros flamboyant devenir un fantôme. La bande dessinée, quand je l'ai découverte, j'ai découvert un fantôme.
Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant de la raison, en fait, d'être des fantômes? Je crois qu'on fantasy horreur de l'idée de revanche, qui en plus correspond dans le mental à la magie noire, et pas à la magie blanche, c'est-à-dire au fait que quand on fait une mauvaise action, il y a un retour, ce qui ne correspond pas du tout à cette magie blanche de Mandal. Mandal est un mélange de religion catholique et de magie blanche apportée par les esclaves, comme on en trouve aussi en Haïti, enfin dans les Antilles. Et du coup, voilà, donc, du coup, j'ai des liens, vous pouvez me répéter un petit peu.
Ressuscité sur
l'injustice, oui. Alors, je suis très sensible à l'injustice et je suis très sensible au fait que on prenne les enfants pour des objets à tout niveau. Je suis toujours du côté des enfants. C'est une déformation professionnelle. Je suis enseignante, je suis professeure de français. Et puis, c'est une déformation personnelle. Je crois que je n'ai jamais supporté l'idée d'être adulte et j'ai très vite jugé les adultes. Un libraire me disait une fois, c'est bien parce que dans tes livres pour la jeunesse, quand on est adulte, soit on est paumé, soit on est incompétent. Ce qui est bien, c'est que dans les livres pour adultes, ce sont les hommes seulement qui sont paumés, incompétents, les femmes s'en sortent assez bien. Donc, ça pose un contexte. On est dans une histoire d'injustice, puisque dans Hanté, Samuel est un adolescent, il a 17 ans. Depuis quelques années, il entend des voix, depuis exactement la mort de son beau-père, qui était flic, qui était un bon flic, ce qui fait qu'on l'a pris en tant que pour un auteur de droite. Et du coup, à la mort de son père, il commence à entendre des voix. Il est obligé, parce qu'évidemment, il se bat assez facilement parce que son beau-père a été accusé d'être un ripoux. Et il a donc reçu un capoteur d'honneur au moment de sa mort. Donc, il a vécu dans son 18e natal avec cette idée que son beau-père, qui est le seul homme dans sa vie qui a été vraiment un référent, qui était donc un ripoux. Et il est obligé de changer de lycée. Il se trouve que dans ce lycée, de façon assez étonnante, il y a un jeune lord anglais qui s'appelle Marius Dorman et qui, lui, voit les fantômes, et à eux deux, quand ils sont ensemble, ils les voient, ils les entendent. Et donc, ils rencontrent ce. Donc, Samuel commence avec cette idée d'injustice. Il est persuadé que, vu que son beau-père est innocent, que ça ne peut pas être un ripoux. Et il en est persuadé pour une bonne raison, c'est le regard qu'a Tug sur les enfants en particulier, et sur les enfants roumains en particulier à Paris. Il ne peut pas penser qu'un homme qui a un tel regard sur les enfants roumains dans Paris puisse être un ripoux, ça n'est pas possible. Si vous allez à Paris aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, moi je suis parisienne depuis très longtemps, vous verrez ces enfants à toute heure du jour et de la nuit assis par terre avec soit des adultes, soit des très jeunes filles qui sont là par terre, sales, sur des matelas parfois pas, qu'on dit drogués, qu'on dit alcoolisés pour qu'ils se tiennent tranquilles. Ça n'est pas le plus choquant, même si le père Hugo se retournerait dans sa tombe au point de créer une forme de dynamo. On a régressé d'un siècle. Ce qui est le plus choquant, ce sont les gens qui passent dans le métro. Vous voyez des gens, des hommes, des femmes, bien habillés avec leur sac, leur visage agréable, comme on peut le trouver dans les gens qui passent. Et en fait, j'étais un jour dans le métro avec ma mère, qui est une grande humaniste, et j'étais en train de m'énerver. Dans une indignation, l'animation c'est un peu un moteur dans ma famille, j'étais en train de m'énerver sur le fait qu'il y ait ces enfants-là, et en me disant, mais que vite, là, on fait quoi là? Et ma mère, elle n'est pas du tout dans l'indignation, et elle me dit, imagine ces enfants qui ne voient que des pieds. Et là, ça a déclenché sur cette injustice, ça a déclenché une véritable réflexion qui a donné le personnage de Tug, qui est un flic effectivement qui s'agenouille, lui, qui s'agenouille pour donner un bon chocolat, un jouet, etc. Qui n'est pas dans l'intellectualisme, parce que parfois l'intellectualisme c'est une forme de distance qui permet d'aller sa conscience, et qui là achète sa conscience, et il le sait, il achète sa conscience, et en même temps, il dit une fois dans la journée, ses enfants voient un visage. Ses enfants sont traités comme des enfants. C'est vrai que si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous allez dans Paris, surtout comme c'est le cas pour une des miennes, blonde aux yeux bleus, et plutôt habillée de façon rigolote, tout le monde les trouve adorables. En revanche, un petit roumain assis par terre, sale, avec un bonnet en laine vers années 70, on ne se pose jamais vers lui pour lui parler comme un enfant, pour lui dire qu'il est mignon, pour lui demander quel est son prénom. Donc il y avait cette injustice qui était la mienne, à la base, enfin, ce besoin, ça a donné Tug, et ça a donné Samuel, qui est un adolescent emprisonné dans ce que les adultes lui ont fait vivre, un père qui est parti, un beau-père qui est parti, parce que lui il a suivi lui-même son chemin, qui en est mort, qui a essayé de régler cette injustice et qui cela vient demander des comptes à un petit Français et un petit Anglais qui sont là pour l'aider. Il vient acheter des fantômes. On est dans les fantômes. Voilà. Demain, Andrew, pour votre héros, réparer une injustice, comme l'avait dit, c'est la garantie de passer de l'autre côté, d'être enfin tranquille. C'est une bonne motivation, non, parce que comme vous le dites, quand on est fantôme, personne ne vous voit, personne ne vous parle. Ça craint quoi d'être un fantôme?
Ah bon, c'est chiant, hein, en tant que fantôme. Enfin, quand j'ai écrit le personnage, je me suis dit, bon, maintenant, t'as créé le personnage du fantôme, il fait quoi? Bon, à part terroriser les petits vieux et puis balancer des objets en valeur, les pièces, c'est pas grand-chose à faire. Et je me suis dit, voilà, il faut justement créer cette bonne action pour le rendre, entre guillemets, actif. Alors, le rendre actif, moi, je partais du principe qu'il faut mettre un certain temps pour justement acquérir cette capacité à faire bouger les objets. Parce que je suis un très grand friand de tout ce qui est documentaire paranormal. Donc, ce qui fait que quand on bouge des épisodes de Ghost Hunter, on lance en travers. Ce qui fait qu'on se rend compte qu'il faut au moins 200 ou 300 ans pour faire ce genre de choses. Donc, il faut obligatoirement passer par une étape qui est justement aider son meilleur ami qui est flic à résoudre une sombre affaire de meurtre qui est des gens qui sont retrouvés avec un petit trou dans le cœur, carrément explosé dans le thorax, hein, pour être très clair. Et donc il se dit, bah, justement, ça va être ça la bonne action. Essayer de l'aider, de faire tout ce que je peux pour que cette enquête soit terminée, parce que c'est une enquête qu'il avait commencé à faire avec son meilleur ami avant de mourir. Et donc pour lui, persuadé de faire ça et que ça soit sa bonne action. Voilà. Et donc, oui, effectivement, pour répondre à la fin de la question, je pense que on a un karma dans la vie. On a un karma que, un peu comme les Égyptiens, quand on arrive à la fin de la vie, on arrive sur cette énorme balance avec notre âme et la plume. C'est exactement la même chose. Et que si on s'aperçoit qu'on a fait beaucoup de mauvaises actions dans la vie, et ben la plume s'envole et on va dire bonjour à cette, bien évidemment. Alors, au lieu de voir Osiris, et ben je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus, nous, de ça, c'est qu'on peut faire les pires atrocités, mais personne ne va nous aider. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, on sera jamais puni, on sera jamais inquiété, on peut faire les pires saloperies aux gens qui nous entourent, mais c'est pas grave. Voilà. Et moi, j'avais envie justement que les gens qui lisent ce livre se disent, j'ai fait les pires crasses dans ma vie, ou justement, le cas de Drake, c'est qu'il a fait des choses bien, des choses pas bien, et il est neutre, et justement, la balance ne s'est pas penchée de tout, du bon côté ou du mauvais côté. Donc il se dit, ben voilà, je vais essayer de justement d'aider un peu mon karma, de dire je vais faire ma bonne action pour passer de l'autre côté, parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il attend de l'autre côté. Donc il se dit, je vais essayer de faire ça. Voilà. Et donc oui, je pense qu'on peut faire des bonnes actions pour essayer de réparer un petit peu ce qu'on a pu faire dans la vie et montrer qu'on n'est pas forcément le salaud que l'on peut croire.
Pierre Dubois, dans la bande dessinée, moi j'ai lu la bande dessinée, hein, j'ai pas lu votre roman au départ, j'ai pas eu le temps malheureusement. Le capitaine Trèfle va aller aider un petit être dont le territoire est envahi. Les êtres sont mis en esclavage et tout ça, donc il y a vraiment, il va être aidé par le Hollandais volant. Donc il y a vraiment aussi cette thématique de l'injustice qu'il faut réparer, quoi, en fait.
Oui, mais le fantôme, c'est un peu ça aussi, il y a l'évoquer tout à l'heure, j'ai l'impression, J'ai écrit les lutins quand j'étais jeune et espiègle. J'ai écrit les fées quand j'étais amoureux. Et les elfes, quand on se rend compte que ma foi, il vaut mieux peut-être s'éloigner de tout ça. Pas au moins à avoir avec les mortels. Donc les fantômes, parce que je que par à trouver la main, je me suis dit, tiens, les revenants, on ne sait jamais. Quoi, c'est le... et donc, mais c'est ça, c'est que le bouquin, c'est plus une promenade qu'une encyclopédie. C'est quelqu'un qui est entraîné par un petit fantôme, c'est complètement biographique, qui est entraîné par un petit fantôme qui l'emmène à la lisière. Et qui lui montre son monde, dans quoi elle vit maintenant. Donc il y a toute une manière d'apprivoiser ces petits êtres, notamment les enfants qui sont morts. Au début, c'est comme des enfants, ils jouent, ils veulent faire peur, mais ils ont fait pire des gens, c'est là, ils enlèvent leur tête, etc. Vraiment pour effrayer celui et celui qui passe. Au-delà de ça, il entend des bonbons. Il commence à redevenir des enfants. Et pour maintenant, à la fin, le premier fantôme est assez rassurant. J'avoue que cette idée de la mort, c'est toutes les histoires de fantômes, mais ils sont. Vous savez que. On a un peu peur de fantômes, alors que par exemple, en Angleterre, à la Noël, tous les ans, c'est Dickens qui a commencé d'ailleurs après comme un deuil et tous les ans c'était de tradition. Nous on parle du Père Noël, mais c'est vraiment la ghost story de l'année. On raconte des histoires de fantômes, on se racontait des histoires de fantômes, et même Montagu James qui était prof à Oxford offrait à ses élèves son histoire de fantômes tous les ans à la Noël. Donc il amenait ses élèves préférés, je ne sais pas jusqu'où, enfin moi, ses élèves, plutôt moi, et c'était dans son salon, il est dans son salon avec Chesterfield, et puis tu vois le feu qui ronronne dans la cheminée, et tout, le porto, les verres de chez lui, le porto de près, sur la... et partout il avait mis des bougies pour mettre l'ambiance, et il mouchait une par une les bougies, il n'en restait plus qu'une sur son bureau, et il racontait son histoire de fantôme de l'année. Et c'est vrai que c'est une manière d'approcher le fantôme qui est très qui rassure. Par exemple, dans les cimetières anglais aussi, le fantôme se promène à l'aise parce que le cimetière anglais est un jardin. Et on a besoin qu'il n'y a pas de mort. La mandrière n'est qu'un passage. La tombe, c'est de l'herbe. Hein. Et moi j'ai vu dans le Dartmoor des cimetières où les bonnets du Dartmoor descendaient, parce que c'était bien les bonnets, mettre pas sur les tombes. Et après, on a tu crois vraiment une forme de vie qui revient à l'état. Il n'y a pas de. Tandis que le cimetière, avec ce gravier, avec l'asphalte, on dirait du parking, avec les tombes comme ça, comme des voitures, et il n'y a plus de. La mort est terrible. Et je racontais, je sais pas si c'était dans un cimetière, enfin un cimetière où je vais souvent justement, où il y a un fantôme, mais une tombe d'enfant qui est abandonnée et déjà effleurie. De temps en temps, évidemment, je mets un petit truc, et là, des coquelicots avaient poussé sur cette tombe, alors qu'il n'y a rien. J'ai trouvé ça formidable, comme si un fantôme, j'ai l'effleuré, enfin en disant un peu de coquelicot pour ce petit enfant. Et le lendemain, cet parfait de gardien de cimetière avait mis du désherbant sur les coquelicots. Ça fait, c'est oui, mais on a l'impression de notre société. Et maintenant, c'est ça. Le fantôme, la mort, est repoussé. D'ailleurs, le cimetière est repoussé très loin. On meurt à l'hôpital. Il n'y a plus ce passage et tous ces contes, toutes ces histoires autour des fantômes, c'était un moyen aussi de s'habituer à leur présence. On en avait même besoin. Le nombre d'histoires où même des gens qui n'y croient pas, ils ne croient pas aux fantômes, mais quand mon père est mort ou quand un être sacré parce qu'il entend la bonne respiration. Il m'attend à la porte, puis tu viens. Je crois pas au fantôme, oui, mais j'en ai peur. Il y a ça, quoi.
C'est amusant ce que tu dis, parce que justement, dans ce que j'ai compris, le mandat, et j'ai une soeur qui vit au Brésil et qui est très là-dedans, et moi-même ayant vécu certaines choses à ce niveau-là, il n'y a pas de peur du fantôme. Là-dedans, il y a une présence, alors il y a une présence qui absorbe de l'énergie, et qui absorbe énormément d'énergie, et pour en avoir une, chez moi, je sais un petit peu ce que ça peut faire, mais il n'y a pas cette idée de malveillance ou même de bienveillance. Il n'y a pas de conscience, en fait, dans cette conception-là du fantôme. Il n'y a pas de conscience d'être un fantôme. C'est un occupant des lieux et, effectivement, il a besoin d'une présence, donc il a tendance à bouffer l'énergie. Ça, c'est le seul problème. C'est pour ça qu'on nettoie les lieux avec de la sauge, avec, enfin, je crois que c'est pas seulement dans le mandat, avec du sel. Pour nettoyer les lieux, pour les faire partir, parce qu'ils n'ont pas à être là. Point. Françoise Grau, vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de la justice. Je ne sais pas si, parce que comme du coup, je ne sais pas si vous voulez en reparler ou je passe directement à la question. Parce que comme vous avez parlé du fait que le jeune garçon va trouver le livre, en fait, écrit par Chantrelle, qui a été dénoncé. des processus de liquidation du passé, comme on crève un ballon avec une aiguille et que basta, terminé, tout le monde est propre, tout le monde est bien. Voilà. Donc ce sont plutôt des. Je pense que parler fonctionne. Voilà, il s'agit vraiment juste d'envoyer une sonde, fonctionner le passé, faire émerger des choses, mais pas les guérir. Voilà. Donc la justice qui a été faite à André Chantrel, le cruel sort du guide de Vézelay qui est testé par son grand-père Félon, a des hallucinations et voit du sang couler dans la basilique de Vézelay. Bon, c'est entre le mythe et le fantasme et puis la métaphore, en fait, une souffrance inguérissable. La question de la communication, effectivement, entre les vivants et les morts est un des points centraux, évidemment, de vos textes. Pierre Dubois, dans votre épouvantable encyclopédie des fantômes, vous dites, je vous cite, « Les fantômes parlent peu, mais ils se font comprendre. Tous les fantômes ont des choses à raconter, des peines, des drames, des joies brisées. Mais silencieux, presque muets, ils n'ont d'autre recours que de sinistres processions, d'horribles et lugubres pantomimes qui terrorisent et font fuir tous ceux qui les rencontrent, à moins que par hasard, de temps à autre, un simple geste dans le brouillard, un frôlement, un parfum, un mouvement de l'air atteigne une âme réceptive et que passe le message, le dit du fantôme. » Là, on est vraiment sur un problème de communication, quoi dire.
Non, mais là, c'est une... j'aime pas les descriptions, mais t'as raison, c'est une forme de littéraire aussi, c'est de... Non, mais c'est qu'au contraire, je raconte, je suis guidé par un fantôme, l'histoire. Le héros pénètre dans un autre monde, il descend à la cave, dans la maison bachardienne, enfin, dans la maison classique, quoi, la maison française. Il y a la cave où il y a effectivement les êtres de la terre, la mort, et on appelle la séphirie, le grenier, où il y a plutôt les fées, les esprits aériens qui se perchaient là-haut. Et là, ils sont dans une cave, mais ça va au-delà. Il va vraiment dans le. Mais il est émis, comme le fantôme fait les deuil, parce qu'il n'est pas. C'est pas un revenant, quoi. Donc, il va se balader entre le. Partout dans la maison, il peut y avoir des fantômes. Et c'est une promenade. Et les mots servent à ça. Les mots. Je comprends ton truc, parce que j'ai travaillé pour le Fleuve Noir à un moment donné. Donc, plus merveilleuse. Mais là, ça part de tout à fait autre chose. C'est très descriptif. Les mots, chaque mot, sont choisis parce qu'ils sont des mots inusités, parce que c'est des mots employés à double sens. Ce sont des mots de frontières, comme ça, pour expliquer cette relation qui va avoir lui entre le fantôme lui-même, ce qu'il y a de fantôme en lui, c'est compliqué, mais le style, cette forme d'écriture justement, est une manière d'approcher le fantôme, je voulais faire une espèce d'écriture magique pour justement m'en rapprocher. Hein, c'est une écriture qui est lente, qui est salmodique, qui est comme ça, parler des oiseaux sur la grille, il y a un petit peu de sel et des cailloux blancs pour se repérer, sur des fils invisibles, il y a Comprin qui parlait des barricades mystérieuses, il y a un petit peu de ça, de passer il y a ces mots qui se réfèrent un petit peu aussi à la lampe d'Aladin, chaque mot, les vieux mots qui sont perdus dans le grenier, dans cette maison perdue, si on les frotte, l'espèce de génie, l'espèce d'esprit du mot pour en sortir aussi. Le bouquin que ça, c'est bon, il y a des histoires, il y a de paix, la manière dont c'est écrit, dont je m'approche, et dans cet esprit de magie, quoi, d'une forme de magie, de écriture fantomatique.
Chez vous, les échecs de la communication avec les fantômes sont aussi un des moteurs de l'action, en fait, me semble-t-il. Pour les jeunes héros, ils n'ont pas de mode d'emploi de comment on parle avec un fantôme. Et donc, du coup, rationnel de communiquer avec des fantômes. Moi, c'est quelque chose que j'adorerais faire, tant plus que pour moi, les fantômes ne sont... L'idée que les fantômes soient mes fantômes est quelque chose de terrifiant. Je veux des fantômes inconnus. Je ne veux surtout pas voir mes fantômes. Je veux croire qu'ils sont ailleurs, nulle part, mais qu'ils ne sont pas près de moi, parce que j'estime que les gens que j'ai aimés qui sont morts, qui sont souvent des gens qui m'ont élevé, comme mes grands-parents, mes oncles, tantes, ont le droit de ne plus s'occuper de moi et de faire autre chose. Donc je ne crois pas obligatoirement à un au-delà merveilleux, je n'en sais rien. D'ailleurs, dans Hanté, dans Piégé, Samuel et Darius ne savent absolument pas ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a un moment où on se pose la question, ils font passer les fantômes, puisque l'un est un passeur et l'autre est une porte. Puis il y a un moment où ils se disent, mais ça se trouve, on les envoie dans un lieu pire. Question que je ne m'étais jamais posée avant de voir, pour le coup, moi j'ai plutôt des références littéraires, mais là, pour le coup, c'est une série qui s'appelle Torchwood, qui est une série de la BBC, où dans un des épisodes, quelqu'un revient de la mort. Donc, on lui pose des questions sur ce qu'est la mort, et elle, parce que c'est une femme, répond on est dans l'obscurité totale, ce qui est l'idée de là, c'est terrifiante, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui gratte et qui est très proche. Je ne m'étais jamais posé la question de l'au-delà, parce que je trouve ça idiot d'anticiper, j'avais déjà pas anticipé mon planning, alors ce qui va se passer après ma mort, moi, j'en ai un peu rien à foutre. Juste à ce moment-là, ça avait projeté Isabelle et Darius dans ce questionnement de choix, surtout. Est-ce que ce que je fais est bon? C'est vrai qu'on ne communique pas sur la mort, on ne communique pas sur les fantômes. D'abord, il y a toujours cette histoire de croyance qui est insupportable, mais n'était pas. C'est une croyance tout à fait inoffensive. Je crois qu'on a en ce moment des croyances plus offensives sur lesquelles on peut discuter. Savoir si les fantômes existent ou pas, c'est tellement personnel à la limite qu'on n'a pas besoin de débattre. On peut le dire, on n'a pas besoin de débattre. Les enfants qui ont moins de problèmes, enfin, les gens qui ont moins de problèmes avec la mort sont les enfants. Parce que jusqu'à l'adolescence, de toute façon, ils sont éternels. Je le sais parce que moi, c'était la petite anecdote amusante. Quand j'habitais en France, j'en ai ma fille à la danse. Tous les mercredis, on passait devant le cimetière, qui était ce parking. Moi, j'ai beaucoup aimé les cimetières parce que tout mon imaginaire s'est construit sur ces noms inconnus avec des dates. C'est génial, ça. Un nom, une date, et on construit toute une histoire. Donc, ça a été vraiment une ouverture vers l'imaginaire. Et tous les mercredis, ma fille, qui avait 5 ans, passait devant le cimetière, elle disait, on peut y aller, Satan. Mercredi, on pouvait, quand je n'étais pas trop pressée. Vous savez comment sont les mères, on est toujours un petit peu pressées. Et tous les mercredis, elle regardait les tombes et elle me disait, tu sais, maman, quand tu seras morte, je mettrai des fleurs sur ta tombe. Jusqu'au jour où je lui ai dit, ma chérie, je t'aime de tout mon cœur, est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de ma mort tous les mercredis? Ça commence à m'angoisser un petit peu. Ce qui m'a permis de lui dire à 5 ans, ce qui était utile, je vais mourir, tu vas mourir, et ça n'est absolument pas grave. Hein, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre en soi. Ça ne serait pas normal que tu meurs avant moi. À la base, il n'y a pas d'ordre. Elle n'a plus jamais posé la question, et du coup, le cimetière est redevenu pour nous deux ce lieu absolument apaisant, imaginaire, où on pouvait imaginer, on pouvait faire des généalogies et imaginer.
déjà eu